Nous avions vu la dernière fois les différents jugements, les différentes vérités des jugements spéculatifs. Il faudrait ajouter, en nota bene, les jugements spéculatifs mathématiques. Je ne veux pas entrer trop là-dedans. Ce serait très intéressant. Les jugements spéculatifs des sciences sous la soumission des mathématiques, sous la domination des mathématiques. Parce que c'est quand même des connaissances spéculatives. Et le philosophe n'a pas le droit, au point de vue critique, de ne pas s'en occuper, comme ça n'existait pas. Aristote s'occupe de la connaissance mathématique. Alors, est-ce que la connaissance mathématique a connu un développement homogène ou un développement qui n'est pas homogène? C'est toutes les études que doit faire Marc Balmès. C'était le projet de sa thèse du début. Est-ce que, de fait, les connaissances mathématiques ont connu un développement homogène depuis Aristote, ou bien non. Vous voyez, c'est très important au point de vue critique. C'est un problème de critique, ça. Ce que dit Aristote sur les mathématiques est-il encore valable? Ce que dit saint Thomas sur les mathématiques, c'est ce que dit Aristote. Il n'a pas. Il n'y a rien dit d'original là-dessus. Est-il encore valable? Devons-nous changer? Alors, je vous dis ce que dit Aristote, ce que dit saint Thomas. Puis j'attends le résultat. C'est pas directement la philosophie, vous voyez ça? C'est la critique. Ce qui est important, hein. C'est important, mais je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine tellement complexe, qui a pris une telle expansion. J'en parle bien avec Monsieur Vautier, qui lui est un matheux pur. C'est bien que les matheux purs, devant les polytechniciens, disent toujours polytechnique. Et donc ne considère pas que les polytechniciens sont de purs mathématiciens. Bergard des Lauriers disait ça avec beaucoup d'acrimonie. Ils ne savent pas très bien ce que c'est que les mathématiques, parce que lui était dans les mathématiques pures. Toutes les conversations que j'ai eues avec le père Guérard là-dessus, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est comme ça qu'il a étudié l'être mathématique. Donc pour ceux qui intéressent, je crois que c'est cette étude-là qui est la plus importante et intéressante. C'est paru dans la RSPT. RSPT, oui, Revue des sciences théologiques et philosophiques. C'est la revue du Saulchoir. Vers les années, je crois, 40, 50, il me semble. 50, 52. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? C'est forcé que si on porte un jugement sur la vérité mathématique, on doit savoir ce que c'est que l'être mathématique. L'être mathématique n'est ni l'être métaphysique, ni l'être de raison. C'est un mixte. Les mathématiques ne sont pas la logique, et les mathématiques ne sont pas la philosophie première. C'est un développement sui generis. Ce qu'Aristote a très bien vu. Et ça, je crois que ça reste vrai. Parce que moi, je crois qu'il y a un développement homogène des mathématiques. Dans une très grande extension, mais un développement homogène. On comprend très bien qu'il y ait des degrés multiples d'abstraction dans les mathématiques, c'est pas gênant. mais un développement homogène. C'est-à-dire ce développement permet de situer les mathématiques par rapport à la philosophie de la nature, par rapport à la philosophie première, à la philosophie tout court, et par rapport à la logique. Oui, peut-être ce que nous allons faire rapidement, simplement pour que vous ayez une piste de recherche dans ce domaine-là, surtout pour ceux qui d'entre vous ont poussé les mathématiques. Pour ceux qui ont poussé les mathématiques, c'est intéressant de se poser la question, quelle est la vérité qui existe en mathématiques? C'est pas commode, hein, à première vue. Parce qu'il existe une vérité. Toute connaissance qui se dit scientifique implique une vérité. Mais la mesure de la connaissance n'est pas la même en mathématiques et en philosophie première. C'est pour ça que je n'ai jamais le droit, au nom de la philosophie, de juger de connaissances mathématiques. Je respecte le domaine sui generis du mathématicien. Mais quand le mathématicien dépasse son domaine pour arriver et déborder sur un jugement philosophique, je dis halte-là, pas le droit. Il faut tout simplement s'entendre, chacun derrière ses frontières, et respecter les frontières différentes. Oui. Homogène, oui, je suis d'accord. Mais quand je dis homogène, je l'emploie avec quelque chose de très vaste, c'est-à-dire qu'au point de vue de la coupe critique par rapport au réel, puisque là je suis en critique, donc je suis en philosophie, hein, la sagesse a le droit de juger, de situer toute connaissance humaine. Je ne fais pas des mathématiques, je fais une critique des mathématiques. La critique mathématique et philosophique. Et le mathématicien ne peut pas se situer par rapport à la philosophie. Et ça, c'est vrai. Oui, quand je vois quelqu'un comme M. Vautier, que j'aime beaucoup, et qui est un vrai matheux, comme le père Guérard, on trouve les mêmes réactions que j'aime beaucoup. Parce que c'est des réactions extrêmement nettes, précises. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que le domaine mathématique. Mais le père Guérard savait beaucoup mieux ce que c'était que la philosophie et la métaphysique, mais il avait toujours une très grande peine. C'était presque une méta-mathématique. Projection sur le domaine des essences. Il est très à l'aise dans le domaine des essences, donc il est possible. Mais ce n'est pas le jugement d'existence. Et à ce moment-là, je voyais moins bien que maintenant l'importance du jugement d'existence. Donc je ne pouvais pas l'attaquer de face. J'essayais de comprendre que ce qu'il disait de l'essence n'était pas la même chose que ce que nous disons de l'essence. C'était très bien pour le combattre sur son propre domaine. Alors, vous voyez, c'est ça que nous cherchons. Alors, c'est très vrai qu'il faut avoir l'habitus mathématique. Mais pour saint Thomas et pour Aristote, l'habitus mathématique s'acquiert très vite. Il suffit d'un. Vous voyez, si il y a une certaine homogénéité, c'est de l'ordre de l'extension. C'est comme l'habitus métaphysique s'acquiert très vite. Dès que vous inférez, dès que vous induisez la substance, vous avez l'habitus métaphysique. Alors, à l'état pas encore très souple, mais vous l'avez. On a l'habitus dès qu'on saisit les principes. Alors, on doit tout de suite se poser le matheux. Saisit des axiomes à la place des principes. Parce qu'il est dans un ordre d'intelligibilité. une intelligibilité très particulière, parce que c'est une intelligibilité qui vient de l'intelligence assumant tout le domaine quantitatif, avec le domaine des relations, donc tout le domaine du divisible. C'est cette alliance, et je crois ça vrai, cette alliance de l'intelligence avec le domaine imaginatif, qui est le domaine de la quantité, du divisible. Le matheux n'a pas une intelligence séparée, une intelligence liée toujours au domaine du divisible. Pas le possible métaphysique, mais le possible du divisible. Puisque de fait, il ne part pas du jugement d'existence. Il peut le présupposer, mais il ne part pas du jugement d'existence. Il part tout de suite d'une donnée abstraite. L'être mathématique est un être abstrait, dès le point de départ. C'est pour ça qu'il peut avoir des principes, mais pas des causes, au sens absolu. Il peut saisir des relations de nécessité, mais pas causales. Au sens propre. Il peut saisir des antériorités, conditions sine qua non, au point de vue de l'intelligibilité, d'une position subséquente, ce qui donne comme un aspect de causalité, mais qui n'est pas une causalité, qui est tout simplement un ordre d'intelligibilité. L'ordre en mathématiques est une notion absolument fondamentale. Les mathématiques, c'est les connaissances les plus ordonnées. Parce que c'est l'ordre. Tout ordre implique un principe et une mesure. Par la mesure, d'une certaine manière, la causalité exemplaire intervient, mais c'est une causalité exemplaire uniquement au niveau de l'intelligibilité. De l'intentionnalité. Ce n'est pas une causalité exemplaire à la manière de l'artiste. Vous voyez, c'est une causalité exemplaire dans l'intentionnalité et dans la mesure de l'intentionnalité. Mais elle joue. Le mathématicien pourra avoir des prototypes, des exemples au sens fort, des modèles. Il aura des axiomes qui lui permettront d'ordonner, étant donné telle hypothèse de recherche, je peux ordonner cela de telle ou telle manière. Je peux voir le développement de l'intelligence de telle ou telle manière, grâce aux données initiales. Donc c'est une science qui repose sur l'abstraction et l'hypothèse. Une hypothèse qui donnera un système nécessaire à l'intérieur de cette hypothèse. Étant donné que on pose telle ou telle chose, on pourra développer. Donc, la vérité mathématique n'est pas une vérité par rapport au réel existant, et par rapport aux données, aux axiomes qu'on s'est donnés, par rapport aux hypothèses qu'on s'est données, et alors on aura une nécessité d'ordre d'intelligibilité qui s'imposera avec toute la clarté, la plus grande qui soit. C'est dans le domaine mathématique que l'intelligence atteint au maximum de clarté. C'est ce qui fait la grande séduction des connaissances mathématiques. Il n'y a rien de plus séduisant. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir combien Descartes a été séduit par les mathématiques. Pour lui, la démonstration mathématique est de beaucoup la plus rigoureuse, la plus claire, et donc elle est le prototype de toutes les autres démonstrations. Et c'est pour ça que son unique désir, c'est d'aboutir à une démonstration de l'existence de Dieu modo-géométrico. Et c'est ce modo-géométrico qui commande toute sa recherche. Ça, c'est, je crois, très typique de la connaissance cartésienne. Et voyez le lien, c'est par le point de vue de la causalité exemplaire. La causalité exemplaire du mathématicien peut devenir une méta-causalité exemplaire, qui sera celle de Descartes, qui sera le lien avec l'être premier. Oui.
En question de poids, l'intérêt des deux domaines en mathématiques, le domaine analytique et le domaine géométrique.
Oui. Est-ce que ces deux domaines, au plan proprement critique, ils ont deux développements totalement différents? C'est sûr. Mais, au point de vue vérité, est-ce que ce n'est pas deux hypothèses de point de départ qui permettent deux développements différents? Une rivalité entre les deux. Une rivalité, vous voyez. Une rivalité paisible. Et je crois que c'est deux développements différents, mais que fondamentalement, pour le philosophe, hein, faisons attention, je suis dans une critique philosophique. Donc ma critique, c'est de saisir qu'est-ce que c'est que la vérité. Et j'ai pris le prototype de la vérité, intellectus adequatio ad rem. Pas l'oublier. Je pars de là. Le mathématicien pourra refuser, comme l'idéaliste. Je comprends. Je ne veux pas les convertir. Je pars de là. Et je demanderai au mathématicien, s'il me dit c'est supérieur les mathématiques, eh bien, expliquez-moi le domaine philosophique. C'est-à-dire l'homme et son intelligence. Sont des affrontements après de deux critiques. C'est toujours au niveau critique qu'on peut regarder la supériorité d'une philosophie ou de la philosophie des mathématiques. Mais ce n'est pas au niveau mathématique et philosophique qu'on peut se confronter. C'est au niveau critique. C'est la critique des sciences, je dirais, c'est très net. C'est la critique de la philosophie et des sciences, ou la critique des sciences et de la philosophie. Oui. Je dirais comme ça, si on veut regarder chien et chat, n'est-ce pas? Oh, il faut le faire aujourd'hui. C'est un devoir. Je pars de ma sagesse philosophique pour faire la critique de la vérité. Et je vois le premier type de vérité, adequatio ad rem. Donc l'intelligence mesurée par la réalité. Ça, il faut être très conscient de ça. Hein. Je suis très conscient de ce que je fais. Alors ne m'accusez pas de quelque chose dont je dis non, c'est pas mon rôle. Et je regarde donc la diversité des parties de la philosophie spéculative, ce que nous avons vu, pour les voir par rapport à cette adéquation intellectus ad rem. C'est ce que nous avons fait. Ça, c'est net. Avant de passer à la philosophie pratique, qui reste philosophique, donc je suis dans mon domaine, je mets un nota bene Donc je pourrais très bien ne pas le mettre. Mais je crois qu'il faut le mettre. Un notable est né. Je dis, ayons un regard philosophique sur tout ce domaine de la spéculation qui a tout envahi, qui a tout colonisé, qui a tout envahi. Ce que la métaphysique faisait au Moyen-Âge, la mathématique le fait de nos jours. On est colonisé par le point de vue mathématique. Donc, c'est important. Je crois que je n'ai pas le droit, au point de vue philosophique, de dire « ça ne m'intéresse pas ». Ça m'intéresse. Et grandement. Parce que si je n'ai pas là ce regard, je dirais tout ça maintenant, jusqu'à l'ordinateur. Ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse toute l'humanité d'aujourd'hui. L'homme savant aujourd'hui, mais oui. Alors, c'est les mathématiques. Donc, je disais, premier problème très délicat, qui serait très intéressant, on pourrait mettre le second problème, si vous voulez, ça m'est égal. Le développement homogène des mathématiques. Bon, même si ce développement homogène n'est pas homogène, c'est le philosophe qui doit le faire, hein. C'est pas le matheux. Puisque c'est une critique à partir de la sagesse philosophique. Je dis deux. Il y a eu une critique des mathématiques qui joue Aristote, Thomas d'Aquin. Je regarde ce qu'ils ont dit. Troisièmement, je regarderai, à partir de ce développement, pouvons-nous l'appliquer à tout le développement mathématique d'aujourd'hui. Et partout, il y aura la formalisation mathématique. Je retrouverai ce raisonnement. Je retrouverai ça. Oui, c'est le nota bene. Bon. Je regarde maintenant le voisin. Qui dit, ah, très bien tout ça, mais ça c'est la sagesse philosophique. Elle est périmée. Elle est périmée, cette sagesse philosophique. Elle n'existe plus. C'est vrai, elle n'existe plus sur le marché. Le débat qui a eu lieu quand j'ai quitté Fribourg, devons-nous maintenir une chaire de métaphysique? Ça est passé 6 mois après. Devons-nous maintenir une chaire métaphysique? Parce que ça n'est plus court sur le marché. On a conclu non. Et en faisant ça, on tuait l'intention profonde de celui qui avait fondé l'Université de Fribourg. On n'a pas tenu compte du tout de ça. Et le Saint-Père, venant après, a dit « il faut une sagesse philosophique ». Et métaphysique. Alors quelques étudiants m'ont demandé qu'est-ce que j'avais donné au Saint-Père pour qu'il dise ça. Et c'était la position du pape par rapport à l'Université de Fribourg qui se veut d'inspiration catholique. Mais en faisant ça, il se coupait. Comment voulez-vous qu'il puisse avoir encore une théologie sérieuse s'il n'y a pas une philosophie, une sagesse philosophique? On n'aura plus que l'exégèse, une théologie descriptive, et puis c'est tout. Ou une anthropologie type Karl Rahner. Ça, c'est important de voir ça, vous voyez. C'est très important. Alors, qu'est-ce que fera celui qui essaie de faire une critique? Il partira des mathématiques. Selon le marché, c'est très vrai. La métaphysique est remplacée par les mathématiques. Donc, on détrône. Et c'est les mathématiques. Et les mathématiques voient tout leur développement. l'on fait une histoire des mathématiques, à partir des mathématiques. Et tout ce qui n'est pas dans le domaine mathématique n'est pas scientifique. Le scientifique est annexé par les mathématiques. Et ce problème se voit très fort dans la biologie d'aujourd'hui. C'est peut-être là le terrain le plus intéressant. Parce que, parmi les biologistes, il y en a qui ne veulent pas être annexés. Il y en a qui se laissent annexer. C'est ça qui est intéressant à voir, il y a un combat. Ils ne sont pas tous d'accord, c'est évident. Mais il y a quand même une vision sur le marché. C'est tout le domaine scientifique, c'est fait partie des mathématiques. Les mathématiques sont reines. Vous voyez ? Et je vous dis, un normalien mathématique, c'est pas rien. Il le sait. Et il sait très bien que c'est lui. Parce que ça n'a plus la sagesse philosophique la plus courte. Donc, à partir de là, ils regarderont qu'est-ce que c'est que la philosophie. Ah, cette bête curieuse ancienne. Oui, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce que c'est que la sagesse philosophique? Alors, vous aurez diverses positions. Les uns diront, on respecte. Témoin d'un âge révolu. Tant que ça existe, très bien. Peut-être. Peut-être que ça a encore un intérêt. Peut-être. Vous avez cette position-là chez des matheux. Qui, au fond, considère quand même que les mathématiques règnent. Puis vous avez cette autre position. Des mathématiques qui se sont liées au positivisme. Ceci existe surtout chez les biologistes. Les réductionnistes, comme on les appelle aujourd'hui, en biologie. Le positivisme, ceci existe surtout dans les sciences humaines. En physique, la plupart des grands physiciens, des grands matheux. Si vous voulez faire de la métaphysique, très bien, je comprends pour ça. À quoi ça sert? Tandis que le positivisme a pénétré beaucoup plus les sciences humaines et la biologie. Ça a pénétré un peu chez les physiciens. Un peu. Chez les matheux, les grands matheux, très peu. Très peu. Parce qu'il y a une noblesse. L'intelligence. Je crois que les mathématiques maintiennent une noblesse de l'intelligence. On n'est pas un petit roquet. On a une noblesse. On a quelque chose de grand. Et parce que et chez les grands physiciens, on retrouve ça. Chez les grands biologistes, on retrouve ça. Alors ils disent, bon, c'est possible. C'est possible. Oui. Alors s'ils ont la foi, ils disent, c'est possible. L'Église maintient ça. Alors, par mode d'autorité, c'est très bien, on respecte, par mode d'autorité. Ce qui fait dire à beaucoup qui ont subi les connaissances des séminaires d'antan, en disant, mais oui, au fond, c'est terrible, parce que par rapport à la culture moderne, qui est une culture scientifique et mathématique, on est comme des bâtards. J'ai entendu l'expression. On est des bâtards, parce que un âge révolu, vous maintenez ça, chose qui ne va pas. Alors, chez les positivistes, c'est beaucoup plus, c'est la négation. Troisième position, la logique mathématique. Alors, les positivistes polis disent oui. La métaphysique, c'est une question de sentiment. Claude Bernard dit ça, avec beaucoup de gentillesse. La métaphysique, c'est du sentiment. Oui, c'est poétique. Faites de la poésie. Oui, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui sont. Mais si c'était la poésie, j'aimerais mieux faire de la poésie tout court que de faire de la métaphysique. Ce serait plus agréable. Vous voyez? Puis alors, la logique mathématique considérera la philosophie comme pas assez rigoureuse, pas assez précise, parce que l'analogie. Donc, au fond, c'est du sentiment. Aussi. Oui, je crois que c'est les diverses positions qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant à voir. Et la philosophie, malgré tout, continue. Mais comment continue-t-elle? C'est très vrai que c'est pas commun du tout pour le savant d'avoir un contact réel avec la philosophie. C'est très difficile. Je me souviens d'un exemple personnel. C'est le professeur Marois, donc professeur à la faculté de médecine à Paris, qui est un biologiste, mais qui est un médecin. Et il me dit toujours, je suis premièrement médecin et deuxièmement un savant. C'est très bien de dire ça. Je suis d'abord un médecin, puis je suis un savant. Bien, il m'a dit cette chose curieuse la première fois que je l'ai vue, c'était après le concile. Il était invité au concile pour représenter la science. Il était invité par Paul VI. C'était un ami personnel de Paul VI. Il m'a dit, c'est curieux, pendant tout le concile, j'ai essayé d'avoir contact avec les théologiens. Je n'ai eu aucun contact. Parce que il se réfugiait dans un problème de méthode phénoménologique, la conscience. Et alors, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, c'est curieux, on a l'impression qu'entre nous, on pourra au moins discuter, parce qu'il y a l'expérience. L'expérience du vivant. Évidemment, on regarde différemment, mais il y a quelque chose de commun. S'il n'y a plus rien de commun, discuter. Et c'est ça qui est au fond le drame d'aujourd'hui. Parce que je crois que c'est vraiment, pour la théologie, c'est quand même un drame. Alors voyez, c'est ça que je veux considérer, c'est que nous regardons les sciences comme n'étant pas la philosophie, et comme étant développées à partir des mathématiques. Et c'est vrai, ça c'est un fait. La formalisation des sciences et mathématiques, elle n'est pas métaphysique. Alors, c'est un fait. Est-ce que c'est un bien, que c'est pas un bien? On verra. Mais tout le développement se fait de ce côté-là. Il faut bien comprendre que ce développement-là, ben oui, il existe. Il existe chez des chrétiens. Il existe chez des calvinistes, chrétiens calvinistes. Il existe très peu, un tout petit peu, quand même, chez des savants non-croyants. Mais très peu dans l'humanité. Et c'est très très important de voir que là, et ça c'est un problème critique, vous voyez, le nombre ne fait rien à la vérité. Si la vérité, c'est vraiment cela, seule une philosophie réaliste peut le donner. Les mathématiques, alors, je les regarde donc, moi, ici, et non pas là. Ça, c'est le matheux qui discute pour lui. Alors, en face de ce matheux qui discute pour lui, qu'est-ce que peut faire le philosophe? Le philosophe va toujours dire, très bien ce développement mathématique, mais dites-moi ce qu'est l'homme. Dites-moi ce que c'est que la personne humaine. Dites-moi ce que c'est que l'esprit. En tant que matheux, il dira, s'il est honnête, ça ne m'intéresse pas directement. Les mathématiques ne nous disent rien sur ce que c'est que la personne humaine. Et alors le mathématicien dira, ah, mais il y a les sciences humaines, la biologie, les sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences humaines, que le mathématicien regarde, hein, avec un peu de mépris. Parce que les sciences humaines, c'est vraiment, par rapport à la certitude mathématique, c'est de l'ordre de l'opinion. C'est de l'ordre de la dialectique. C'est pas très valable. C'est vraiment le dernier casier des sciences. Et on se demande si c'est encore des sciences. Par rapport aux mathématiques. Mais il y a quand même quelque chose de commun, grâce aux statistiques, grâce à tout ça, il y aura quand même une petite parenté avec le point de vue de la logique. Par la logique, il y aura quelque chose. Certaines méthodes empruntées aux mathématiques. Mais c'est loin. C'est très loin. C'est-à-dire très contingente. Donc ça change. Du point de vue politique, vous voyez, sciences humaines, la politique, c'est encore plus lointain. C'est la sociologie, la politique. Mais c'est important de voir que c'est quand même vu dans cette même lumière. Et le philosophe dirait, attention, les sciences humaines, ça, ça relève de la sagesse. Nous revendiquons. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine que le philosophe revendique, c'est le domaine de l'esprit. C'est le domaine de la personne humaine. C'est le domaine de l'âme spirituelle. Le domaine de l'intelligence. Le domaine de la volonté. L'amour. Tout amène-là ne dit rien sur l'amour. Oui, c'est pour ça que le philosophe doit mettre très en lumière ce qui lui est propre pour montrer la nécessité d'une sagesse philosophique. L'amour, l'intelligence. Donc savoir ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'âme spirituelle. Voilà le domaine propre. Et s'il n'a pas conscience de ce domaine propre, alors la métaphysique n'a plus qu'à se fermer. Si on comprend que c'est essentiel à la vie humaine de regarder ce que c'est que la personne, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'âme spirituelle, et dans cette lumière-là, ce que c'est que l'imagination, ce que c'est que la sensation, ce que c'est que le jugement d'existence, seul le philosophe peut en parler. Et ça, je le vois tout de suite quand je fais ce petit nota bene. Je vois que la connaissance mathématique n'atteint pas les causalités. Elle atteint uniquement un ordre qui n'est pas causal. Un ordre dans l'intelligibilité. Ce qui est premier, ce qui est ultime. Et donc la vérité mathématique, ce sera par rapport à l'ordre. Ce sera l'harmonie dans cet ordre. Ce sera le respect de tous les intermédiaires. C'est l'ordre qui mesure les mathématiques. Pour revenir à la vérité, oui, les sciences appliquées, l'expérimentation. Alors là, il faut comprendre qu'on ne saisit de la vérité que ce qui est conforme à notre hypothèse. Puisqu'on n'est pas parti de la réalité. Et c'était le grand problème de Descartes. Mes idées me permettent-elles de rejoindre la réalité? Et voyez, tout le détour de Descartes. Il faut découvrir l'existence de Dieu, cause et principe de mes idées, cause et principe de la réalité, pour comprendre que mes idées sont conformes à la réalité. La science moderne ne fait pas ça. Tout à fait. Oui.
Par conséquent, c'est un critère de vérité qui est très, très mouvant.
Très mouvant, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que disent les savants. C'est que l'erreur, d'une certaine manière, est un élément de ferment pour la recherche. Et que c'est une vérité toujours relative, en fonction de tel moment. Cette vérité existait à telle époque, elle n'est plus vraie notre, la nôtre. Oui. Parce que de fait, l'expérimentation a rejeté telle hypothèse. On a été obligé d'en forger une autre. Et ainsi de suite. Donc, la réalité, c'est comme un mur qui renvoie la balle. Mais la réalité ne spécifie pas la connaissance. C'est l'hypothèse. La réalité ne l'a pas rejetée, voilà tout ce qu'on peut dire. Mais ça ne fait pas connaître la réalité. C'est ça qui est terrible. C'est un revêtement. Ce revêtement peut être très très proche. Vous voyez ? Un petit peu, je dirais, comme un moule. Vous voyez ? Comme un moule sur un visage. Ou sur une réalité. Ce moule, s'il est suffisamment souple, va pouvoir, mais il ne me fait pas connaître la réalité. Parce que l'un provient de l'intelligence par les hypothèses, et l'autre, c'est la réalité existante. Or, je me suis coupé dès le point de départ du jugement d'existence. Oui. C'est une vérité intrinsèque dans un ordre donné. Donc c'est une adéquation de l'hypothèse à l'égard de ses conclusions, étant donné le système qu'on a accepté. Oui.
Est-ce que la vérité mathématique n'est pas plutôt une sincérité ?
Ah non ! Rien de plus objectif. L'objectivité vient de l'hypothèse qu'on a donnée. C'est ce que diront toujours les matheux. Les matheux ne sont pas tous des psychologues. Vous avez déjà vu des maths psychologues ? J'en ai pas vu beaucoup. C'est même très très curieux, comme ils sont peu psychologues. Mais ils sont quelquefois des artistes, musiciens, parce qu'ils aimeront beaucoup l'harmonie. Ils ont un sens très aigu de l'harmonie, du nombre, de l'ordre. C'est très très fort. Ils auront ce sens très étonnant de ça, mais pas psychologique. Alors, sincérité, si vous voulez, un matheux est toujours sincère dans ses mathématiques. Mais ne dites pas que la vérité mathématique, c'est la sincérité. Ça les ferait hurler, ça. Et ils auraient raison. Parce qu'il y a une objectivité mathématique qui est donnée dans les hypothèses. Et le système mathématique se tient d'une façon cohérente. Comme vous direz que la logique mathématique a une objectivité la plus grande qui soit. Tandis que dans la connaissance métaphysique, il y a le sentiment, parce qu'il y a l'amour. Oui ? Comme tout perfectionnement de l'intelligence disposé à la philosophie. Les mathématiques ennoblissent l'intelligence. Ça, c'est net. Alors, cette noblesse peut être à la fois un très grand obstacle et peut-être un merveilleux tremplin. Ça peut être un terrible obstacle si, justement, les mathématiques s'érigent comme la connaissance la plus certaine qui soit, et qu'on prend la certitude comme absolue, point de vue de la connaissance. Descartes, la certitude. Au point de vue certitude, les mathématiques l'emportent. Et c'est ce que dira le philosophe. Il dira, au fond, il y a deux aspects dans toute connaissance, la certitude et le point de vue de la vérité. Au point de vue vérité, la vérité mathématique ne rejoint plus la res immédiatement. Entre deux, il y a l'abstraction. Mais au point de vue certitude, la connaissance mathématique est première. Alors, c'est là où vous rejoignez, voyez, la sincérité par la certitude. Mais la certitude n'est pas la sincérité. La sincérité, c'est une certitude subjective. Tandis qu'il peut y avoir une certitude objective de telle ou telle objectivité. Oui. Oui, le mathématicien, en tant qu'il est un homme, peut faire de la philosophie, c'est bien évident. Vous voyez, et ce que je veux dire, c'est quand on prend les mathématiques comme remplaçant la sagesse philosophique, donc elles doivent régner. La sagesse détermine tout. Et alors vous avez un ordre nouveau. Vous voyez, déjà, chez Bacon, on retrouve ça. On a un nouvel organon. Et le nouvel organon, c'est la logique qui provient des mathématiques et qui provient de fait d'un ordre scientifique.